Europe 1, 13h.
De 13h à 14h avec Céline Géraud sur Europe 1 et vos deux chroniqueuses du jour. Céline pour décrypter l'actualité, Naïma M. Fadel, essayiste et la journaliste au journal du dimanche, Charlotte Dornelas.
Bienvenue à bord, mesdames.
Merci.
Nous sommes trois femmes. Un studio 100% féminin aujourd'hui pour décrypter l'actualité avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, jusqu'à 14h. Alors évidemment, on va revenir pour commencer sur cette incertitude, cette menace qui plane pour de nombreux voyageurs dans les aéroports, puisque même si le principal syndicat de contrôleurs aériens a levé son préavis de grève pour demain, il y a quelques incertitudes, quelques perturbations à prévoir. Quand on sait qu'il y a les ponts du mois de mai, les JO, bien sûr, le chantage n'en finit pas. Ça peut déranger Naïma M. Fadel, parce que quand on voit le statut des aiguilleurs du ciel, qui est quand même très avantageux, avec une retraite à 59 ans, une semaine de 32 heures, ça dérange.
Bien sûr que ça dérange, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est toujours malheureusement pris en otage. On ne peut pas prévoir nos vacances, aller voir notre famille, nos familles, etc., sans avoir malheureusement l'épée Damoclès, que ce soit de la SNCF ou des aiguilleurs d'avion ou des pilotes, etc. Ça, c'est sans fin. Ce qui est inadmissible, c'est que le gouvernement n'arrive pas à réagir pour que nous, Français, ne soyons pas pris en otage. Mmh. C'est ça qui est... Et là, quand vous voyez ce qui se passe avec la SNCF, je pense qu'on
va... Oui, on a prévu d'en parler, évidemment.
On va
c'est,
en parler,
c'est
mais...
C'est le même sujet.
Ben, c'est le même sujet, voilà. Donc, effectivement, la SNCF et l'État capitulent, en fait.
La direction a capitulé.
Voilà, pour que les JO se passent très bien, mais c'est scandaleux, en fait. C'est que, en fait, en termes d'accès aux mêmes droits, là, il y a un problème. Il y a une rupture de l'accès aux droits et la réforme des retraites qui a été mise en place, qui devait impacter que ce soit le public ou le privé, sachant qu'elle impacte beaucoup moins le public. Aujourd'hui, on voit que malheureusement, la SNCF, les cheminots, etc., arrivent quand même à s'en sortir au détriment des contribuables que nous sommes.
Alors, Charles Dornelas, les aiguilleurs du ciel qui parviennent à leur fin, la SNCF aussi qui capitule face à la menace des syndicats.
Le gouvernement avec, parce que j'imagine mal la direction de la SNCF prendre cette disposition qui, en effet, contourne la réforme des retraites sans l'aval du gouvernement aujourd'hui. Là, je pense qu'on paye à la veille des Jeux Olympiques des années, en fait, d'un traitement égal de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une revendication, on a l'impression que la discussion est impossible, la négociation est impossible. C'est extrêmement radical. Et donc, là, évidemment, à la veille des Jeux Olympiques, quand vous n'avez jamais tenu ce bras de fer avant, c'est pas à la veille des Jeux Olympiques que vous allez le faire. Donc, évidemment, là, en ce moment, les aiguilleurs du ciel, ça touche les gens qui sont en vacances, parce que Paris ne l'est plus, mais le reste de la France l'est. Ils menacent de le faire pendant le week-end de l'Ascension, qui est en plus cette année rallongé par le 8 mai, on va dire. Et évidemment, quand vous avez déjà des préavis de grève en juin et que s'approchent les Jeux Olympiques, c'est évidemment ça la crainte, c'est d'acheter la paix sociale, la paix du transport, on va dire, pendant les Jeux Olympiques, parce que évidemment, la France ne peut pas se permettre de ne pas avoir de transport pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est le pire moment. Oui. Pour l'État, pour négocier. Et comme ça n'a pas été fait avant et que jamais ce sujet-là n'a été
envisagé. En même temps, les Jeux Olympiques, c'est tous les 100 ans.
Pas par rapport aux Jeux Olympiques, justement, parce que
handicape, c'est un levier. Voilà,
ça handicape la France et beaucoup de Français extrêmement régulièrement. Et je le dis, en Europe, où la question des droits sociaux des uns et des autres est également répartie, on va dire, je ne compare pas avec d'autres pays dans le monde où c'est incomparable, on a des taux de grève et des jours de grève, c'est incomparable aussi. Donc la France a quand même un recours à la grève qui est quasiment systématique à la place de la négociation. Et dans une négociation, il faut que les deux parties comprennent dès le début qu'en général, on arrive à un accord. On n'obtient pas tout ce qu'on veut tout le temps. C'est ça aussi le principe de base qui a l'air d'être oublié par certaines parties, évidemment, qui jouent leur va-tout à la veille des Jeux Olympiques parce qu'ils savent
bien sûr.
Le gouvernement n'a pas le choix. En
fait. Et Bruno Retailleau, ce matin, le patron de LR, qui disait que c'est un accord catastrophique. C'est un accord qui insinue qu'on peut être payé sans travailler. C'est une forme d'euthanasie du travail. par rapport à cette, justement, ça permet d'effacer cette fameuse réforme des retraites, Naïma M. Fadel, qui avait été adoptée au forceps.
Oui, mais c'est pour ça que les Français ne peuvent pas comprendre. Comme on ne peut pas comprendre, suite à ce que vient de dire Charlotte, qu'on n'ait pas pu sanctuariser les moments de vacances scolaires, les fêtes de fin d'année, les fêtes religieuses aussi, comme par exemple l'Italie a pu le faire. Donc on a l'impression qu'on ne peut rien faire dans
ce pays. Mais est-ce que c'est un mauvais signal aussi qui est envoyé dans un contexte budgétaire quand même, qui est quand même extrêmement complexe et douloureux pour, à la fois pour l'État et pour les Français ?
Mais évidemment, quand on nous dit qu'on doit faire des économies au niveau de la dette, où on est en train de toucher justement aux chômeurs, aujourd'hui, on donne encore... à ce corporatisme. Donc, effectivement, le message est extrêmement catastrophique.
Et un accord qui tombe la semaine où la France, justement, risque une dégradation de sa note, on le rappelle, par plusieurs agences de notation.
Mais même au-delà de la question globale ou macroéconomique et ce rapport à la dette et à l'effort, et même le rapport au travail, même en mettant tout ça de côté, ce qui est déjà un effort énorme, j'en conviens, mais même au-delà de ça, Emmanuel Macron a défendu cette réforme des retraites, c'était quasiment la seule chose qu'il avait envie de faire pendant son deuxième quinquennat, on avait bien compris, c'était vraiment l'enjeu absolu, etc. Et il avait vendu la chose en disant « je sais que c'est impopulaire, mais c'est absolument nécessaire que tout le monde fasse des efforts ». Donc jamais cette réforme n'a été vendue au prix de « vous verrez, c'est beaucoup mieux, vos vies seront plus ». Non, c'était vendu comme un effort. Et il se trouve qu'on apprend, elle a été passée au forceps, contre l'avis de beaucoup de gens, même à l'Assemblée, c'était très compliqué.
Et ça redonne de l'espoir aux opposants, cette réforme.
La réforme est adoptée et la première chose, c'est de créer un nouveau régime spécial sur le terrain des retraites pour la contourner dans une entreprise qui est déjà régulièrement ciblée pour ses régimes spéciaux. En termes de compréhension et d'égalité, puisque la sacro-sainte égalité nous est sortie à toutes les sauces, sauf apparemment quand il s'agit de faire des efforts à tout le monde. Et encore une fois, je le dis, c'est pas une question de privilège des uns par rapport aux autres. C'est si nous devons tous faire des efforts, à quel moment certains doivent en faire plus que d'autres. Simplement parce qu'ils ont une monnaie d'échange qui est effectivement très handicapante par rapport à d'autres travailleurs qui travaillent extrêmement durement et qui, eux, n'auront jamais cette monnaie d'échange. Alors, c'est parfaitement injuste.
Qu'en pensent nos auditeurs d'Europe 1 ? Vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet. On entendra Alain, qui nous écoute dans les Alpes-Maritimes dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
13h31 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud.
Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens lève son préavis de grève pour demain. Un mouvement qui s'annonçait massivement suivi. Un accord a été trouvé, a expliqué l'organisation à l'issue d'une conciliation de dernière minute la nuit dernière avec la Direction générale de l'aviation civile. Quelques perturbations malgré la levée de ce préavis de grève selon le ministère des Transports qui salue un accord gagnant-gagnant. Les obsèques de Philippe Kopmann, battu à mort la semaine dernière à Grande-Synthe, seront célébrées cet après-midi à 14h30. Près de 1500 personnes sont attendues selon la mairie qui prévoit une mobilisation aussi forte que lors de la marche blanche. Entre 1300 et 3300 postes supprimés au sein du groupe Casino, repris par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui présente un plan de réorganisation aux représentants du personnel. 500 postes pourraient être supprimés au siège du groupe à Saint-Étienne. Incertitude sur le nombre de magasins et d'entrepôts qui doivent trouver preneur d'ici le mois de septembre. Quel avenir pour Duralex ? Le tribunal de commerce d'Orléans doit se prononcer sur le possible redressement judiciaire du verrier français. L'entreprise espère trouver un repreneur et sauver son usine qui emploie 230 salariés. Enfin, le PSG peut remporter un 12e titre de champion de France dès ce soir. Les Parisiens se déplacent à Lorient en match en retard de la 29e journée. En cas de victoire, et si Monaco ne bat pas Lille, ils peuvent être sacrés champions de France. Coup d'envoi à 19h.
13h32 sur Europe 1, le débat continue dans Europe 1 13h avec vous aujourd'hui. Céline, la journaliste au Journal du Dimanche, Charlotte Dornella, Céleste Eys, Naïma M. Fadel.
Et Alain qui est avec nous en direct dans Europe 1 13h. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci
mesdames.
D'être avec nous. Vous nous écoutez dans les Alpes-Maritimes et vous vouliez réagir sur cet accord qui a été trouvé donc avec la SNCF et les cheminots et les contrôleurs.
Oui, je dois dire que ça frisait un peu la sidération, bien qu'en fait il faille s'attendre à ce qu'il se passe des négociations de cet ordre-là, parce que les syndicats appellent une négociation, j'appellerais plutôt ça une forme de chantage. Pur et dur.
Ah oui, pour vous, c'est du chantage avec les jeux ?
Ah, c'est clair, c'est très clair. Et je pense que ça ne sera pas les derniers. On voit très bien qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas réglés avec les Jeux Olympiques. Et il est clair qu'un certain nombre de gens vont profiter de ce moment-là pour faire en sorte de faire aboutir des négociations, des revendications qui traînent depuis des mois. Ce qui est quand même assez troublant dans cette affaire-là, c'est qu'il y a quand même un actionnaire, qui est l'actionnaire principal de la SNCF que nous connaissons tous. On sait très bien, en fait, comment ça va se traduire, puisque ça va se traduire forcément par le fait que le contribuable, à un moment, va payer. Et alors, si j'ai bien entendu l'information, on va avoir des gens qui vont, non pas partir à la retraite, mais mettre mis en disponibilité. C'est même pas disponibilité, puisque je comprends qu'on les rappellera jamais.
Cessation d'activité, c'est ça le terme exact.
Cessation d'activité, ça c'est absolument extraordinaire. C'est un nouveau régime qui démarre. Bon, moi j'avoue que là, c'est effrayant. Ouais. Alors quand on voit qu'évidemment les aiguilleurs du ciel en profitent, moi je dois dire que le peu de courage de l'exécutif est assez inquiétant. Parce qu'en en fait, il y a des mois et des années qu'on aurait dû faire d'abord voter un texte expliquant à tous ces syndicats que, en fait, je ne remets pas en cause du tout le jeu des syndicats.
Oui. Hein,
je crois que c'est absolument indispensable dans le système démocratique dans lequel nous sommes. Pour autant, comment peut-on tolérer qu'à chaque vacances, qu'à chaque long week-end, on ait immédiatement un préavis de grève qui soit déposé, préalablement, voire deux mois avant, pour expliquer que tout va s'arrêter, que les gens ne vont pas pouvoir partir, que ça soit en avion, que ça soit en train. Enfin, c'est complètement aberrant.
Vous avez raison, Alain. Merci beaucoup. Vous nous écoutez dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai que c'est ce que vous disiez, Naïma. Voilà, les usagers sont pris en otage et on n'arrive pas à anticiper, alors qu'on le sait, effectivement. Et ce que dit Alain est vrai. Ça fait des années.
Une espèce de fatalisme. L'état de droit dont on nous parle, on nous bassine, aujourd'hui ne fait pas. En tout cas, ne répond pas aux difficultés que rencontrent les Français et on laisse faire les choses, et ça depuis des années. Je voudrais juste rappeler qu'en 2022, il a été versé par l'État et les régions à la SNCF 20 milliards d'euros. 20 milliards, vous imaginez?
Et quand on entend effectivement le ministre des Transports qui dit que c'est un accord gagnant-gagnant concernant l'accord qui a été trouvé avec les aiguilleurs du ciel, c'est quand même...
Le problème, c'est que ça devient incompréhensible dans les deux cas, parce que là, on a bien vu dans la réaction, juste avec une dose de bon sens, on se dit, la veille des vacances, ça touche absolument tout le monde. Donc, c'est même pas, on peut être en désaccord sur qu'est-ce qu'il faut accorder ou non, sur le travail, sur le rapport à la retraite, même sur cette réforme des retraites, et comprendre qu'en France, encore une fois, par rapport à nos voisins européens, on a un rapport à la grève qui est maladif. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'à chaque fois, ce soit systématiquement sur le terrain du chantage, parce que évidemment on nous dit non mais pas du tout, c'est pas une prise d'otage, ça n'a rien à voir. Mais alors pourquoi ces grèves se font systématiquement sur le dos des vacanciers? C'est évidemment parce que le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir les vacanciers à dos, donc il lâche petit à petit. Mais là c'est un engrenage complètement fou.
Et c'est ce que dit Alain, il dit ça va donner sans doute des idées à d'autres corporations de rentrer
dans
la danse.
C'est ce qu'on disait pendant la pause. Imaginez un quart de seconde que les magistrats ou les policiers, alors je sais qu'ils ont un droit de réserve et que ça ne se passe pas de la même manière, enfin ils pourraient tous se mettre en arrêt maladie, on a déjà vu ça à la veille des Jeux Olympiques, vous imaginez ça? Pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils ont un rapport aussi à leur métier et aux services qu'ils rendent, dans une certaine mesure, ce qui est aussi le cas pour les gens qui nous transportent, c'est vrai, qui ne leur permet pas de négocier à n'importe quel prix. Par ailleurs, quand on invoque le droit de grève, certes, c'est un droit en France, c'est un droit qui est absolument légitime et légitimé d'ailleurs par l'histoire et sa mise en place. Simplement, ce n'est pas le droit qui est en haut de la pyramide de tous les droits humains. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on se pose la question des limites, surtout quand ça revient en permanence au moment des vacances ou là, à la veille des Jeux Olympiques, où clairement, encore une fois, on ne peut pas se permettre. C'est impossible.
Charlotte, ça interroge aussi le service public.
Ah bah oui,
c'est
ça, bien sûr.
C'est la question aussi de la continuité de ce service à la population. Et encore une fois, nous payons, nous. Donc aujourd'hui, il faut l'interroger. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas remettre en cause, je vous le dis franchement, le service public est effectivement privatisé, comme d'autres pays l'ont fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas.
Ouais. Oui, ce qu'on privatise non plus. Mais...